Quand le Bouddha, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge par les bienfaits des dons et vertus que je m'éveille pour tous les vivants. Om Mahom. Dans la section Mahamudra Dzogchen, la voie de l'immédiateté, nous allons continuer aujourd'hui le quatrième chapitre, la pratique de Mahamudra. Et particulièrement les trois points essentiels de la pratique de Mahamudra, les trois points essentiels de l'attitude de l'esprit, ce que l'on nomme aussi les trois portes de la libération dans le contexte de Mahamudra. La pratique de Mahamudra peut être résumée à trois points essentiels qui sont l'absence d'artifice, matcheux, l'absence de distraction, mayenne, et l'absence de méditation, milhomme, en tibétain. Considérons d'abord l'absence d'artifice, l'absence de contrainte. Lorsque nous sommes dans une période d'assises, de contemplation en l'état de Mahamudra, nous laissons notre esprit sans contrainte, sans artifice, nous laissons l'esprit tel qu'il est, sans l'influencer, sans interférer. Nous le laissons en son état naturel, sans modifier son état avec quelque intervention ou artifice que ce soit. Nous n'essayons pas d'améliorer l'état présent de l'esprit ou de produire quelque chose. Nous n'essayons pas d'amener un état mieux, dans l'espoir que ce soit mieux, ni ne craignons que ce ne soit assez bien, sans espoir, sans crainte, laissé tel quel. Ainsi, non-artifice, absence d'artifice. Ensuite, considérons l'absence de distraction. Un premier type de distraction se présente lorsque l'esprit se distrait de cet état d'esprit naturel ordinaire, Rambap, Tamel Dishepa. Donc, qu'est-ce que l'on nomme distraction? C'est quand l'on se distrait, lorsque l'on sort de l'état naturel, libre d'artifice, libre de distraction. Et cet état naturel, comme nous l'avons vu précédemment, se nomme l'esprit naturel ordinaire, Tamel Dishepa en tibétain, ou encore Rambap, Rambap Tamel Dishepa. Distraction en commençant à saisir, en entrant dans la saisie d'une forme, d'un son, d'une pensée ou de quoi que ce soit. La distraction vient avec la saisie. Donc, de rester sans distraction, en état de non-saisie, désaisie. L'absence de distraction et l'absence de fixation, l'absence de saisie. Un deuxième type de distraction apparaît lorsque l'esprit perd sa vigilance, perd sa présence attentive, sa clarté lucide, lorsque la clarté, la lucidité se pacifie et que l'on glisse dans un état de torpeur, disons. Et troisièmement, on parle d'absence de méditation pour exprimer qu'il n'y a aucune méditation qui soit à faire. Il n'y a pas une méditation à produire, à fabriquer, à faire. Un état sans méditation, sans action. Il s'agit seulement de laisser l'esprit en son état naturel, sans contraindre, laissant être l'esprit ordinaire, comme il dit, je sais pas. Un moment de contemplation. Ainsi. Et puis vient une section importante sur les trois corps en l'esprit. Les trois corps du Bouddha, les trois dimensions de l'état d'incorporation, les trois dimensions de l'éveil en l'esprit. En l'esprit d'immédiateté, en l'esprit ordinaire, en l'esprit naturel. Kalu Dorje Chan nous dit, l'esprit naturel, Rambap, a une qualité de lucidité claire et transparente en laquelle ces trois aspects essentiels, vacuité, ouverture, clarté et capacité ou qualités illimitées existent spontanément. Donc, en l'état de Rambap, en la lucidité claire et transparente, en l'ouverture transparente de cet état naturel Rambap, subsiste naturellement, ces trois dimensions de l'éveil, ouverture, clarté, qualité. La transparence de l'esprit est alors sa vacuité essentielle, une transparence, une ouverture transparente. Sa nature lucide et intelligente sont sa clarté intelligente, cette clarté et les aspects de son expérience éveillée sont sa capacité illimitée. Alors, la clarté et plus particulièrement la deuxième dimension et les aspects de cette clarté en expérience éveillée, en qualité et capacité illimitées, sa troisième dimension. Trois dimensions qui se nomment Dharmakaya pour l'ouverture, Sambhogakaya pour la clarté et Nirmanakaya pour les aspects de l'expérience éveillée, capacité, qualité illimitée. Lorsque l'esprit est dans cet état de transparence limpide, ouvert et lucide, il est pleinement connaissant, dans un état d'intelligence vide, ritton en tibétain. C'est une intelligence éveillée, que l'on dit aussi rikpa en tibétain, non entravée, sans blocage, sans saisie, qui fait en elle-même l'expérience de ses qualités illimitées dans leurs aspects. Donc, cette expérience ouverte et lucide, cette ouverture claire, riton, intelligence vide de dualité dans son ouverture absolue, vide de saisie, vide de conception. Cette intelligence vide, rikpa, expérimente en elle-même, sur un mode réflexif, non dualiste, des capacités illimitées, des qualités illimitées, des expériences illimitées aux qualités sans limite, qui correspondent à ce moment-là au troisième aspect, troisième dimension. Cet esprit vide, clair et illimité n'est pas loin de nous. Il est notre visage essentiel. Et on se souviendra, trop proche pour être vu. Mais tout comme celui-ci, ce visage essentiel ne peut pas se percevoir lui-même, l'esprit ne peut se percevoir lui-même. C'est ce que l'on nomme l'ignorance, marikpa en tibétain, qui est simplement l'absence d'intelligence vide, rikpa en tibétain. Rikpa est l'intelligence vide, et marikpa, ma est la particule négative, c'est non rikpa, absence de rikpa, cette ignorance, ignosance, et on pourrait traduire aussi rikpa par gnose, entendu que ce serait alors le synonyme d'intelligence vide ou d'expérience primordiale. Pour la dépasser, pour la dissiper, cette ignorance, il s'agit sans conception de voir son état naturel, de voir sa nature, de voir la nature, l'état naturel de l'expérience, puis de s'habituer à cette expérience de l'état naturel et progressivement de la stabiliser sans distraction en toutes circonstances. C'est ce que l'on nomme l'intégration et c'est ainsi que la pratique progresse. Mais comprenons bien que ces qualités essentielles de l'esprit ne sont aucunement quelque chose qu'il faille essayer de produire. Elles sont la nature de l'esprit expérience depuis toujours présente. Il s'agit simplement de les reconnaître. Ainsi, l'esprit étant naturellement vide ou vert, il est à jamais Dharmakaya, le corps de vacuité ou corps absolu du Bouddha. Étant naturellement clair et lucide, il est toujours Sambhogakaya, le corps d'expérience parfaite du Bouddha. Étant naturellement capacité, qualités illimitées, expérience sans blocage, il est perpétuellement Nirmanakaya, le corps d'émanation du Bouddha. L'esprit naturel, l'esprit Tamil Dishepa, l'esprit Rambap, est ainsi toujours essentiellement les trois corps du Bouddha. Naturellement et spontanément libres, et rien ne peut être fait pour améliorer leur perfection. La réalisation de Mahamudra est nommée intelligence primordiale innée. Intelligence primordiale, intelligence première, non conceptuelle, non duelle, innée. Innée parce que les trois corps de la nature essentielle de l'esprit, vacuité, clarté et capacité, qualité illimitée, ils sont essentiellement présents à jamais. Ils sont innés. Donc, ainsi, reconnaître la présence des trois corps, la présence de l'éveil en l'esprit, le trikaya en l'esprit, reconnaître sa présence et l'intégrer, et le cœur, la pratique essentielle du Mahamudra ou du Dzogchen. Un moment de contemplation. Et vient ensuite une section qui se nomme intégration et transmutation des pensées et des émotions. Donc, il s'agit de l'intégration de la pratique et de l'expérience du Mahamudra et particulièrement l'intégration de tous les événements de l'esprit, de toute la versatilité de l'esprit, de toutes les pensées, de toutes les émotions qui y surgissent. Au début de la pratique, notre esprit est souvent en effervescence, comme un pot d'eau bouillonnante sur le feu. Bloup, 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 bloup. La pratique de Rambap, restée telle qu'elle, nous apprend à cesser d'interférer avec les pensées et les émotions, ce qui est comme d'arrêter d'alimenter le feu. Ainsi, l'ébullition se calme-t-elle toute seule. C'est un point très important pour que l'agitation, l'effervescence, l'ébullition s'apaise. Il s'agit simplement de rester tranquille, d'arrêter d'interférer, d'arrêter de répondre, réagir, d'interférer. Restant Rambap, et ainsi, en l'absence d'interférence, l'ébullition, l'agitation, se calme d'elle-même, s'apaise d'elle-même. Comme nous sommes débutants, nous ne pouvons pas rester longtemps dans l'état de méditation juste. Des pensées et des émotions auxquelles nous nous attachons, sur lesquelles nous nous fixons, viennent nous en distraire. Ce ne sont pas tant les pensées et les émotions elles-mêmes qui nous en distraient, que la fixation et saisi de ses pensées, de ses émotions. Nous apprenons à ne pas les saisir, à ne pas les suivre. Notant simplement la présence d'une pensée ou de l'émotion, d'une émotion, et ne la suivant pas, gardant l'état de lucidité dégagé en restant dans une observation abstraite de tout ce qui apparaît en l'esprit. Donc, sans s'engager en saisissant la pensée ou l'émotion, rester ouvert, dégagé, relaxé. Dans une lucidité dégagée de l'observation abstraite, une observation toute simple, observation qui ne s'engage pas, qui ne saisit pas, qui voit tout simplement. Tout simplement, et qui reste dans cette simple vision. Nous laissons l'esprit tel quel, reconnaissant ce qui se passe en lui-même, sans interférer. Simplement voir, comme on vient de le décrire, et l'état d'observateur abstrait. Quand on reste dans cette lucidité dégagée, cet état d'observateur abstrait, les pensées et les émotions naissent de la vacuité et y disparaissent. De la vacuité, elles émergent. En la vacuité, elles disparaissent. Comme les vagues de l'océan s'élèvent de lui et y retournent. Ou encore, comme un arc-en-ciel s'illumine dans l'espace, puis s'y dissout. Il y a dans le texte qui s'illumine, puis s'éteint dans l'espace, une petite coquille. Dans cet état d'esprit, dans cet état d'expérience, toutes les pensées et les émotions qui s'élèvent ne sont plus ni bénéfiques ni nuisibles. Si nous pouvons réaliser cette méditation, quoi qu'il s'élève à notre esprit, rien ne présente plus aucune difficulté et la méditation, entre guillemets, l'expérience, est alors un état dans lequel il est possible de vivre continuellement en toutes circonstances, dans cette lucidité ouverte et dégagée. Y rester, quoi que nous fassions, prière, récitation de mantras, ou dans la vie quotidienne, que nous nous déplacions, travaillions, dormions, etc. Et ce qui est nommé la pratique continuelle. C'est la voie qui fut suivie par tous les maîtres et accomplie du passé. C'est l'unique voie qu'ont suivie tous les ancêtres de la lignée, tous les Bouddhas d'antan. Dans la réalisation véritable de Mahamudra, les passions de l'esprit, au lieu de le troubler, de le souiller, l'embellissent. Dans cet état les passions sont une énergie qui sont comme un ornement. Les dispositions négatives ne sont plus à rejeter. Elles se transmutent d'elles-mêmes en intelligence primordiale. Elles sont, comme on dit certaines fois, du bois sec amené au bûcher de l'intelligence primordiale qui nourrit son énergie et son éclat. Prenons par exemple le désir. Le désir entre hommes et femmes, c'est une disposition passionnelle, mais son essence même est félicité. Il est possible, sans fuir ni suivre l'impulsion du désir, d'expérimenter son essence de félicité, qui est finalement félicité vide. Le désir et la pulsion de désir vécue en cet état devient félicité vide, félicité vide de dualité, vide de saisie, félicité vide, déton, que l'on nomme aussi masukha, grande félicité. Il en va de même pour la colère. Il est possible, là encore, sans l'exprimer ni la réprimer, d'expérimenter son essence, qui est la clarté dynamite de l'esprit, et de développer la réalisation de la clarté vide. L'énergie de la colère en cet état ouvert, libre de saisie, est une clarté vide, une dynamique, une énergie de l'esprit, clarté vide. Ce qui est vrai pour le désir et la colère, l'est aussi pour l'orgueil, la jalousie et les autres passions qui se transmutent dans la même méditation. On peut avoir présent à l'esprit ici les correspondances entre les passions et les expériences premières qui se transmutent toutes simplement par cet état, en cet état ouvert, libre de saisie. Et l'on peut aussi penser aux souhaits du Dzogchen, aux souhaits de Samantabhadra, en lesquels Samantabhadra exprime cette libération, cette auto-libération, transmutation des passions. Le désir, reconnu comme félicité vide, se transmute en intelligence primordiale ou sagesse du discernement. La colère expérimentée dans son essence se transmute en l'intelligence primordiale du miroir, l'opacité mentale en l'intelligence primordiale du dharmadhatu, l'orgueil en l'intelligence primordiale de l'équanimité et la jalousie en l'intelligence primordiale tout accomplissante. Les cinq passions en les cinq sagesses ou cinq expériences premières, les cinq gunas. Mais maintenant, nous n'avons pas réalisé ces intelligences primordiales. Aussi pouvons-nous douter de la possibilité d'une telle transformation. Néanmoins, par notre pratique effective, une connaissance profonde de la nature de l'esprit s'éveillera. Et nous pourrons comprendre qu'il en est vraiment ainsi. Lorsque cette transmutation des passions est pleinement réalisée, les passions ne sont plus un obstacle, elles deviennent même une aide. C'est ce que nous disions précédemment. avec cette image de la tradition qui dit qu'elles sont alors comme du bois apporté au bûcher de la sagesse. Plus il en est, plus son flamboiement est intense. Un moment de contemplation. Le chapitre se termine par l'histoire du Mahasiddha Maitripa. Un Mahasiddha, un grand accompli, qui a eu une place et un rôle particulièrement important, comme nous allons le voir. Maitripa était un pandite, un érudit de la grande université monastique de Nalanda, près de Bénarès. Il avait reçu la pleine ordination de Bhikshu et gardait scrupuleusement ses 253 vœux. À un moment donné, il reçut du Mahasiddha Shawaripa les instructions du Vajrayana. Par leur pratique, il atteignit un haut degré de réalisation. Plus tard, il prit femme et se mit à boire tout en continuant à vivre au monastère. Lorsque le maître de discipline faisait les tournées d'inspection de routine et que Maitripa était avec sa conjointe en train de boire dans sa cellule, par ses pouvoirs, il transformait sa femme en sa ganta, sa cloche rituelle, et sa bière en un bol de lait, de sorte que le maître de discipline ne voyait rien de spécial. Mais un jour, pris de court par l'inspection, il fut surpris buvant avec elle. Quiconque brise les vœux et la règle du monastère doit partir, dit le maître. Il fut donc chassé et n'emporta avec lui qu'une peau qui lui servait de natte et sa canne de bambou. Se dirigeant vers les berges du Gange, il posa son tapis sur l'eau, s'assit dessus avec sa conjointe et ils partirent en pagayant avec sa canne. À ce moment, tous les moines qu'il avait exclus réalisèrent qu'il était un Mahasiddha et rendirent hommage à sa réalisation. Maitripa fut ultérieurement un des maîtres de Marpa le traducteur ainsi que de Tsongpo Neljor. Et il a donc eu un rôle central à l'origine des lignées Marpa Kadu et Champa Kadu. Maitripa est l'un des principaux Mahasiddhas de l'Inde. Un moment de contemplation. En les Bouddhas, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge, par les bienfaits des dons et vertus, que je m'éveille pour tous les vivants. Par ces vertus, réalisant Mahamudra, que tous s'éveillent en son état.